Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, cette période de l'année où les fêtes de saints se succèdent nous est une occasion de parler de l'intercession des saints, de la place des saints dans notre vie chrétienne. Il est important d'en parler tout d'abord parce que les protestants refusent ce culte des saints. Tout ce que les hommes ont imaginé sur l'intercession des saints, disait Calvin, n'est rien que fraude et tromperie de Satan pour détourner de la vraie forme de la prière. Et une deuxième raison pour laquelle il est important de parler du culte des saints, c'est que les hommes d'Église ayant voulu se rapprocher des protestants depuis le Concile Vatican II, la piété envers les saints a d'abord été traitée de superstition, détournant de la piété envers notre Seigneur. Les statues des saints ont été enlevées de nombreuses églises. Et comme on n'arrivait pas à détruire toute piété envers les saints chez les catholiques, alors la vie des saints du passé a été réécrite au goût de Vatican II. Tandis que l'Église conciliaire changeait les procédures de béatification et de canonisation pour mettre sur les autels ses propres saints, des personnages qui auraient été excommuniés par les papes du passé. Tâchons donc de remettre les choses au point en faisant d'abord un petit rappel historique. Tout d'abord, le culte des saints n'est pas une pratique récente dans l'Église. On en trouve l'origine dès l'Ancien Testament, où la mémoire des grands patriarches, des prophètes, des saints rois était tenue en grand honneur. On voit Moïse, par exemple, pour rendre plus efficace sa prière à Yahvé, évoquer les noms des anciens patriarches. « Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vos serviteurs, » dit-il à Dieu. On voit le prophète Jérémie, après sa mort, apparaître à Judas Maccabée pour lui dire « Reçois le saint glaive comme présent de Dieu, par quoi tu renverseras les ennemis de mon peuple Israël. » Les saints de l'Ancien Testament font même des miracles après leur mort. Ainsi, un cadavre jeté par hasard dans le tombeau du prophète Élisée revient tout à coup à la vie au seul contact du corps du prophète. Des protestants ont d'ailleurs compris qu'ils étaient dans l'erreur au sujet du culte des saints en lisant cet épisode dans la Bible. Quant à notre Seigneur, lui-même, il fait écho à ce culte des saints dans l'Ancien Testament. Ainsi, dans sa parabole du mauvais riche et de Lazare, on voit le mauvais riche prier Abraham. Il le prie pour qu'il lui envoie Lazare lui rafraîchir la langue. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament, bien sûr, que le culte des saints s'est développé, parce que la mort de notre Seigneur a obtenu au monde une telle abondance de grâce que cela a causé une extraordinaire efflorescence de sainteté. Les persécutions sanglantes ayant commencé dès la naissance de l'Église, c'est le culte des martyrs qui s'est d'abord répandu. On allait même les voir en prison avant leur supplice pour leur demander d'offrir quelques-unes de leurs souffrances pour sa propre conversion, pour le rachat de ses péchés. Après leur martyre, on les invoquait avec ferveur. À Rome, dans les catacombes, on célébrait la messe sur les tombeaux des martyrs. C'est d'ailleurs l'origine des reliques de martyrs sur lesquelles il est obligatoire de célébrer la messe pour honorer ceux qui ont mêlé leur sang au sang de notre Seigneur. Cette obligation a d'ailleurs été supprimée dans la nouvelle messe parce qu'on n'y parle plus du sacrifice. Lorsque les persécutions cessèrent avec l'arrivée de Constantin, ce furent des basiliques, des églises qui furent élevées sur les lieux de supplice des martyrs ou qui leur furent dédiées. Et l'Église prit coutume d'honorer leur mémoire par des fêtes liturgiques. On inséra même le nom de plusieurs martyrs dans le canon de la messe, à l'endroit le plus sacré du culte liturgique. Les persécutions sanglantes étant terminées, l'Église trouva dans la vie des ascètes, des moines, des évêques, des vierges, l'équivalent de l'héroïsme des martyrs, et elle leur étendit son culte. Peu à peu, en même temps, on prenait l'habitude de donner aux chrétiens, le jour de leur baptême, le nom d'un saint, pour que ce saint protège le nouveau baptisé, qu'il lui serve d'exemple pendant toute sa vie. Mais lorsqu'au XVIe siècle, l'hérésie protestante prétendit que pour être sauvé, il suffisait d'avoir une sorte de confiance en Jésus-Christ seul, supprimant tout autre intermédiaire, à commencer par la Vierge Marie, alors les pères du Concile de Trente, pour rétablir la vérité, promulguèrent un décret sur l'invocation des saints, la vénération de leurs reliques et le culte des images. Au sujet de l'invocation des saints, le Concile écrit « Les saints qui règnent avec Jésus-Christ offrent à Dieu des prières pour les hommes, et c'est chose bonne et utile de les invoquer et de leur adresser nos supplications. » Et pour obtenir les bienfaits de Dieu par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui seul est notre Rédempteur et notre Sauveur, d'avoir recours à leur aide et assistance. Tous ceux qui le nient professent l'impiété. Nous avons ici trois enseignements. Premièrement, les saints qui règnent dans le paradis avec notre Seigneur intercèdent pour nous auprès de Dieu. Deuxièmement, il est bon et utile d'invoquer les saints pour obtenir les bienfaits de Dieu. Et troisièmement, le Concile précise que cette médiation des saints ne s'oppose pas à celle de notre Seigneur, car c'est par Jésus-Christ que les saints nous obtiennent les bienfaits de Dieu. Ils sont médiateurs auprès de l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, en passant d'abord par la Sainte Vierge. Le culte des saints qui remonte aux temps apostoliques est donc légitime. Il fait d'ailleurs partie de l'enseignement des pères de l'Église et des conciles précédents. Quant aux reliques, qui pour Luther n'étaient, dit-il, que choses mortes incapables de sanctifier personne, le Concile de Trente dit que les fidèles ont le devoir de vénérer les corps et les reliques des martyrs et des autres saints qui ont été autrefois les membres vivants du Christ et le temple du Saint-Esprit, et qui ressusciteront par lui pour être glorifiés dans la vie éternelle. Par ces reliques, Dieu confère aux hommes de nombreux bienfaits. Ceux qui affirment le contraire doivent être condamnés. Quant au culte des images, les images représentant notre Seigneur, Notre-Dame, les anges, les saints, culte que Luther renvoyait au diable, le Concile de Trente, reprenant le deuxième Concile de Nicée, déclare un tel culte non seulement légitime, mais aussi recommandable. Bien sûr, précise le Concile, ce ne sont pas les images elles-mêmes que nous honorons, mais ceux qu'elles représentent, notre Seigneur, Notre-Dame, les saints. Ainsi est enlevée toute possibilité et toute accusation de superstition et d'idolâtrie. Les protestants attaquent l'Église en déformant son enseignement. Ils l'attaquent sur des mensonges qu'ils ont inventés, alors c'est facile. Pour terminer, disons quelques mots de la puissance d'intercession des saints. Posons-nous la question, comment Dieu refuserait-il d'accéder aux demandes de ceux qui l'ont servi si fidèlement sur terre et au prix de tant de sacrifices, parfois même de leur vie ? Alors qu'il les exauçait déjà si souvent lorsqu'ils étaient encore parmi les hommes, ici-bas. Les saints sont d'ailleurs eux-mêmes empressés de venir à notre aide. Eux et nous sont les membres du même corps, le corps mystique de notre Seigneur où tous sont unis par le lien de la charité. Et eux qui sont dans le bonheur et la gloire pour toujours, évidemment, sont empressés de venir au secours de ceux qui sont dans tant de difficultés, surtout aujourd'hui, certainement. Qui dira d'ailleurs l'influence considérable que les saints ont eue après leur mort, alors que même parfois, pendant leur vie, ils ont pu être complètement ignorés ou presque. Est-ce qu'une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, ne continue pas à convertir des âmes aujourd'hui dans le monde entier ? Elle qui avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Que d'exemples nous aurions à donner dans l'histoire de l'intervention des saints qui, du haut du ciel, ont sauvé des villes, des pays, qui ont permis de remporter des victoires pour les armées chrétiennes. Il faudrait aussi parler des merveilles opérées sur les tombeaux des saints. C'est là que des aveugles ont recouvré la vue, des infirmes et des paralytiques ont repris l'usage de leurs membres. Au champ des martyrs d'Avrillé, c'était des dizaines de béquilles qui étaient accrochées au mur de la chapelle, en témoignage des guérisons opérées par leur intercession. Évidemment, après le concile, on ne croyait plus trop aux miracles, alors on a tout enlevé. Mais regardez des photos anciennes. L'invocation des saints est donc tout à fait légitime et vivement encouragée par l'Église, car leur pouvoir est très grand sur les cœurs de Jésus et de Marie. Bien sûr, le secours des saints n'est donné que pour marcher sur leurs traces. Apprenons d'eux à imiter Jésus-Christ, dit saint Augustin. Moins parfaits que notre Seigneur et Notre-Dame, ils sont d'ailleurs davantage à notre portée. Ils ont connu nos combats, nos faiblesses, nos chutes même. Hier, nous fêtions sainte Marie-Madeleine. Et ils sont maintenant dans la gloire du ciel. Alors, quel encouragement pour nous à lire la vie des saints et à les prier. Avant de terminer, disons un mot des nouveaux saints proclamés par l'Église conciliaire. Les procédures de béatification et de canonisation ont été considérablement simplifiées, en particulier en exigeant moins de miracles et en ne faisant plus l'examen attentif de leur doctrine. Monseigneur Lefebvre disait que lorsque l'Église se rétablira, il faudra refaire tous les procès de béatification et de canonisation qui ont eu lieu depuis le Concile Vatican II. Il en concluait qu'on ne peut prier en public les bienheureux et les saints béatifiés et canonisés après Vatican II. Il y en a bien sûr dont la sainteté ne fait aucun doute, comme un Padre Pio ou un Père Maximilien Kolb. Et on peut bien sûr les prier en privé, personnellement. Mais comme ce n'est pas à nous de choisir et de trancher dans ces choses-là, c'est à l'Église, nous ne sommes pas l'Église, alors il faut attendre le jugement d'une hiérarchie digne de ce nom pour leur donner le qualificatif de saint et pour les prier en public. Au cours de cette messe, demandons à notre Seigneur et notre Dame une grande dévotion pour les saints du ciel. D'abord le saint dont nous portons le nom, cherchons à connaître sa vie, invoquons-le chaque jour, imitons-le. De même, le saint ou la sainte qui nous attire le plus. Cherchons aussi à connaître et visitons les sanctuaires des saints qui ont marqué l'histoire de notre ville, de notre région, de notre pays, et qui, au du ciel, sont prêts à intervenir puissamment si nous les prions. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints sont nos parents, alors vivons avec eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.